7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, le rendez-vous des tchatcheuses, trois femmes journalistes de trois continents pour commenter les sujets de leur choix de ces dernières semaines. Aujourd'hui, on accueille Paola Martinez, journaliste chilienne, je vais y arriver. Hola si. Paola.
Hola Emmanuel, buen día.
Samira Ibrahim, journaliste arabophone à Monte Carlo d'Oualia. Bonjour Samira.
Sabah al-khair.
Salam alaikum, j'allais dire, mais non,
vous avez... salam.
C'est joli.
Samira, vous êtes à l'antenne sur Monte Carlo, d'Oualia, tous les jours, à, pour ceux qui parlent arabe.
De 18h à 20h, dans une émission qui s'appelle L'air du temps, Hawal Ayam, avec Rita Khoury.
Et Vibeke Knoop-Rachlin également avec nous, journaliste norvégienne. Hey Vibeke.
Hi Emmanuel.
Mesdames, vous revenez aujourd'hui sur l'actu de ces dernières semaines et d'autres sujets de votre choix, savamment cuisinés à la mode tchatcheuse. Vos points de vue n'engagent que vous, c'est la vraie règle de l'émission. Et en fin d'émission, reportage de David Bachet sur les enfants des rues à Kinshasa. Comment protéger ceux qui terrorisent souvent la population par leur violence? C'est une vraie question. Et bien sûr, les voisins et les voisines, tous vos commentaires au 33 1 84 22 71 71 si vous le souhaitez, ou sur les réseaux sociaux. Nos commentaires de notre côté sur le fil Twitter.
Cuéntame qué te pasa.
I would like to make a few comments.
Ça commence à passer ça.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Tu vas m'en laisser.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Samira Ibrahim, le débat sur le harcèlement sexuel en Égypte, toujours dans les médias, surtout après les incidents de la fin du mois d'août, durant la fête musulmane de l'Aïd, le tout, évidemment, est comme d'habitude amplifié par les réseaux sociaux.
Oui, j'allais dire, tout a commencé cet été, mais malheureusement, on a l'impression que le harcèlement est devenu une routine complètement ordinaire, pas seulement dans les pays arabes, mais partout dans le monde.
Mais parce que de plus en plus relayé aussi,
de
il faut
plus
le dire.
En plus relayé, ça c'est vrai. L'incident en Égypte dernièrement, c'est voilà, en effet, c'est une jeune fille qui attendait son bus à 6h30 du matin et elle s'est fait harceler par 3, 4, enfin plusieurs jeunes hommes. Elle en a eu marre et elle a décidé d'en faire des vidéos. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que ces téléphones portables qui nous suivent tout au long de notre quotidien peuvent devenir des armes, sauf que l'arme là s'est retournée contre elle. En effet, elle a publié ses vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, ça a fait une vague, quand même plus de 100 millions d'habitants en Égypte, ce n'est pas peu. Et malheureusement, alors, elle s'est fait insulter, mais pas qu'elle, même les jeunes hommes se sont fait insulter. Elle a perdu son job. Donc, elle a pu montrer clairement, personne ne peut remettre en cause le harcèlement sexuel en Égypte. En revanche, on trouve toujours des excuses. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue à 6h30? Mais pourquoi elle attendait? Et comme si la rue n'appartenait plus aux femmes, c'est ce qui revient souvent. Moi, ça m'a fait penser à la jeune...
Elle l'a bien cherché.
Exactement, à la jeune joggeuse algérienne qui, pendant le ramadan, était sortie une heure avant la coupure du jeûne pour faire son jogging. Et là, pareil, un homme l'agresse, elle va porter plainte et les gendarmes lui disent « Oui, mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci ?» Elle faisait son jogging, la rue et la place publique appartient à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, enfin tout le monde a le droit d'y être. Ce qui est intéressant, c'est que donc le jeune homme aussi a été insulté, il a été traité de tous les noms. Ce qui était intéressant, c'est que le jeune homme se défendait dans les émissions de télévision, un des jeunes hommes, parce qu'ils étaient nombreux, et disait « Non mais c'est pas moi qui vais harceler. Enfin, moi je suis un fils de bonne famille, je suis à la tête d'une grande entreprise. Enfin, vous me voyez, vous m'avez bien regardé, j'étais dans ma voiture. Je ne suis pas le chauffeur. J'étais dans ma voiture et je lui ai proposé d'aller boire un café. » Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il lui a tourné en rond, il a tourné en rond autour d'elle, il l'a harcelé verbalement. Et donc, ce qui est intéressant aussi à travers cette histoire, c'est qu'on se rend compte que la perception des gens sur le mot harcèlement n'est pas bien comprise. Harceler, c'est exactement ce qu'il décrit, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a été vers elle, il lui a parlé, il a insisté, il a été insistant, il l'a embêté. Mais
ça dépend toujours des cultures aussi. Par exemple, au Chili, en Amérique latine, on a vraiment cette culture de l'harcèlement des rues, par exemple. Les petits flatteurs, mots flatteurs, qui après, ça devient vraiment très lourd.
La petite drague, quoi.
Drague, mais drague vraiment très lourdingue aussi. J'étais au Chili, j'ai passé un mois cet été, et je comprends que dans la mentalité des hommes, c'est pas censé être comme une agression, en fait, de faire des plaisanteries dans la rue, etc. Donc, la question aujourd'hui, les femmes sont plus dans la décision de dénoncer justement parce qu'ils ont marre.
Et il y a des lois qui criminalisent le harcèlement, notamment en Égypte depuis 2014.
Il y a des lois et
passibles de peine de prison.
Et tout à fait. Mais ce qui est intéressant,
que ce soit harcèlement par les faits ou par les mots.
Par les mots. Mais ce qui est intéressant, parce que finalement, oui, les lois existent. On en parlait hors antenne. Les lois sont là, mais c'est les mentalités qu'il faut changer. L'application, c'est que ces femmes sont toujours mises à l'index. Et ce qui est intéressant, c'est le comportement le positionnement d'Al-Azhar qui enfin s'est exprimé, qui a condamné toute forme de harcèlement.
La grande mosquée
égyptienne, tout à fait, enfin qui est basée en Égypte. Donc c'est quand même une institution très importante dans l'islam sunnite et qui a montré du doigt ce fléau qu'elle qualifie de péché. C'est très important. Elle l'a qualifié de péché dans un communiqué qui a été publié le 27 août dernier. Et elle a aussi dit, elle a dénoncé des actes interdits et des comportements déviants. C'est la première fois.
Et surtout, elle demande l'application de la loi qui criminalise le harcèlement sexuel et donc que les auteurs soient punis.
Tout à fait. Mais elle va même plus loin.
C'est bon signe ou pas?
C'est très bon signe, mais parce qu'elle va même plus loin. Elle affirme même, parce que souvent, on dit toujours oui, mais la jeune fille était habillée de telle ou telle façon. Elle affirme que l'habit ou le comportement des femmes ne doit en aucun cas justifier de tel acte. Donc elle va plus loin. Donc que c'est une atteinte à la dignité de la liberté des femmes. Oui, c'est un pas en avant. Alors maintenant, il faut
voir
comment
c'est. C'est la première fois qu'on a une position aussi claire d'une telle institution religieuse.
On l'attendait. Bon, après, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Est-ce que les lois
ont changé? Oui, mais si la loi encadre, les choses peuvent avancer, parce que c'est arrivé par exemple en Argentine, il y a une loi qui a été votée, etc. Et maintenant, si jamais une fille s'est fait harceler dans la rue, elle peut aller voir un policier, porte plainte tout de suite, il va être sanctionné par deux différentes sanctions, mais il va être sanctionné.
Moi, je pense que tout ça est très bien, mais il faut aller plus loin, il faut changer vraiment, véritablement
Vibeke. Oui, je veux revenir sur l'idée que la rue n'est plus pour tout le monde. Oui. Et c'était vrai aussi, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais dans le quartier de Paris, vers la porte de la chapelle, etc. Là, c'était, à une certaine époque, vraiment le cas. Les femmes n'osaient pas sortir. Moi, je me suis promenée dans ce quartier. Bon, on m'a rien fait de spécial, mais c'est vrai qu'on sentait une. On n'était pas à l'aise en tant que femme.
Alors, vous faites allusion effectivement à ce quartier qui a fait l'objet de nombreuses polémiques, parce qu'en fait, c'est devenu assez politique, vu que c'est un quartier où, d'ailleurs, viennent de se réinstaller des campements de migrants qui avaient été démantelés, et où effectivement, du coup, il y a beaucoup d'hommes et certaines femmes ne se sentent pas confortables, pour reprendre le mot anglo-saxon, sur le sujet. Vibeke Knoprachtin, vous souhaitez relayer des interrogations sur les services sociaux en Norvège, de la protection de l'enfance. La Norvège, votre pays, qui est quand même, je le précise, un pays souvent présenté comme précurseur dans ce domaine, où il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour la protection sociale en général, de l'enfance. Il y a un documentaire début août de la chaîne britannique BBC qui est assez inquiétant, vous l'avez regardé.
Et c'est pas le premier, il y en a eu d'autres, il y a eu des Français, des Polonais, enfin c'est l'institution, j'ai envie quand même d'utiliser le mot norvégien, barnevernet, qui veut dire exactement ça, protection des enfants, de l'enfant, est devenu un mot presque d'injure, quoi, un mot vraiment connoté tellement négativement qu'on ne voit pas ce que ce service fait de bien. Et c'est vrai, bon, c'est un service qui a été créé en 1945, soi-disant pour protéger les enfants maltraités. Mais on peut dire que des pays, ils outrepassent pas mal leurs fonctions. Et jusqu'à séparer les parents des enfants, ou plutôt des enfants des parents, au nom de leur bien-être. Oui. Et c'est là qu'il faut quand même connaître un peu la mentalité scandinave, en l'occurrence norvégienne, où les droits de l'enfant sont vraiment très important, voire plus important que le droit des parents. Et je sais que c'est difficile de se mettre ça dans la tête.
Parce
mais
que ce que décrit le documentaire, c'est qu'en réalité, il y a des enfants, en 2015, il y a eu 1665 enfants retirés de leur famille.
C'est ça.
Et sur ces familles, 424 mères étrangères. Donc, ce qui est pointé, ce sont les différences culturelles qui, aux yeux des services sociaux norvégiens, ne sont pas capables d'assurer le bien-être de l'enfant.
Voilà, en tout cas, pas selon les critères norvégiens.
En fonction de leur grille de lecture.
C'est ça, c'est ça. Et
comment vous vivez-vous ces accusations portées contre l'aide sociale à l'enfance de votre
ben,
pays ?
Je le vis... Je ne sais pas exactement comment je le vis, parce que quand je vois des documentaires comme ça, j'ai envie de hurler, parce que ça me semble tellement injuste et tellement dramatique, et pour les parents, mais aussi pour les enfants. Mais en même temps, si je suis le raisonnement et l'idéologie, en quelque sorte, norvégienne, je comprends aussi, parce que... Enfin, ils disent qu'ils interviennent surtout s'il y a un soupçon soit de violence sexuelle, ou que les parents ou l'un des parents
est...
Comment ?
Les places dans les foyers.
C'est ça. Oui, mais s'il y a une vraie carence éducative.
Oui, c'est ça. Ou si l'un des parents ou les deux sont complètement alcoolisés ou prennent des drogues et ne sont pas capables de s'occuper des enfants. Et... jusqu'à présent, on disait que les Norvégiens acceptaient plus ou moins ce système, mais il y a quand même 70 groupes qui sont contre, en Norvège, rien qu'en Norvège.
70 groupes, c'est-à-dire ?
Des groupes de gens qui, sur Facebook ou autres, qui s'élèvent contre ce système.
Mais pas des politiques. Ouais.
Non.
Alors, des parlementaires. Les familles qui se voient retirer leur enfant peuvent
Ils ont
appel.
Très peu de...
Recours,
oui, ils peuvent faire appel, mais ils ont quand même très peu de chances de pouvoir obtenir que les enfants leur soient restitués.
Certains détracteurs de ces services sociaux d'aide sociale à l'enfance parle de kidnapping de l'État. Vous iriez jusque-là. Parce que ce qu'ont montré aussi les enquêtes de la BBC, c'est que il y a aussi des fonctionnaires de ces services sociaux d'aide de protection de l'enfance en Norvège qui retirent des enfants à leurs parents, donc pour sur les critères que vous avez énoncés, et qui, ces personnes-là, exercent en parallèle une activité privée de prestation d'assistance à l'enfant, ce qui leur permet de gagner de l'argent grâce aux décisions prises en tant
ça,
que...
Bien sûr, ça c'est tout à fait condamnable. Mais il y a pire. Il y a aussi un psychiatre qui a été expert dans de nombreux cas, et on s'est aperçu récemment qu'il était pédophile.
Il y a une chose que je n'ai pas compris, excusez-moi, c'est en fait, les gens, il y a quand même un signalement à chaque fois.
Il y a souvent une dénonciation à la base.
L'école, d'accord, ça vient de l'école,
les voisins.
Tout à fait, l'école, les voisins, quelqu'un de la famille qui
accepte. C'est ça.
Okay.
Moi, ça me fait penser aux affaires qui ont cours aussi en Grande-Bretagne. Il y a énormément de documentaires aussi faits par la BBC sur ces services sociaux en Grande-Bretagne, qui même prennent des enfants de Britanniques, gens étrangers.
C'est plutôt l'inverse. En France, on parle rarement de placements abusifs, parce que finalement, les enfants sont plutôt moins placés. En revanche, quand il y a un meurtre d'un enfant sous les coups de ses parents, on dit comment se fait-il que les services sociaux n'aient rien fait ? Ils savaient depuis des mois et des mois.
Oui, mais alors il y a peut-être un équilibre à trouver. C'est bien de veiller au bien-être des enfants et de les protéger, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin.
Mais il y a toujours les questionnements jusqu'où les agresseurs peuvent aller dans les familles.
Et la raison pour laquelle j'ai souhaité évoquer ce sujet aujourd'hui, c'est d'une part, bien sûr, le documentaire tout récent de la BBC c'est très intéressant ça, il y a un journaliste britannique ex-BBC qui vit en Norvège, qui a des enfants et qui a pris la défense de Barnevan.
Des services sociaux norvégiens.
Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai vu une interview de la ministre de l'Enfance qui dit dans l'interview qu'elle ne céderait pas d'un pouce et que la Norvège est précurseur dans le domaine, comme pour le droit des femmes, et que dans quelques années, on reviendra sur le système norvégien.
Ça fait très peur parce que, comme vous l'avez évoqué, c'est très difficile. Les recours sont très compliqués pour les parents. Et le problème, c'est que quand il y a des erreurs, le prix à payer est très lourd pour les enfants et les parents.
Et la Norvège ne veut pas reculer, alors qu'en juin dernier, il y avait un rapport du Conseil de l'Europe qui a affirmé les droits fondamentaux des parents et des enfants et qui a bien dit que le retrait des enfants doit être le dernier recours. Voilà. Vous restez avec nous, les tchatcheuses, dans quelques instants avec vous, Paola. On va parler de l'exode massif des Vénézuéliens. Et votre pays, le Chili, n'est pas d'un enthousiasme débordant. Ça sera juste après Flash. C'est Jen, chez 7 milliards de voisins. On est en compagnie des tchatcheuses. Paola Martinez, vous souhaitez revenir sur un sujet qui se prolonge éternellement, l'exode massif des Vénézuéliens vers d'autres pays en Amérique latine, maintenant notamment un pays que vous connaissez bien, le Chili, où le débat est assez violent.
Est assez violent et surtout il faut dire que d'habitude c'est les Latino-Américains qui vont vers l'Europe, qui viennent vers l'Europe, les États-Unis, etc. Et là maintenant depuis 2015, il y a une exode massive des 1 600 000 Vénézuéliens depuis que la crise politique, économique de toutes sortes a éclaté. Les autorités avec Nicolas Maduro à la tête, qui c'est le président actuel, qui nie absolument cette crise humanitaire.
Malgré l'inflation délirante, le FMI prévoit une inflation d'1 000 000% prévue pour la fin 2018.
Et pas du tout, c'est exactement ça. Donc les gens, ils partent en masse et la semaine dernière, il s'est prononcé en disant, venez arrêter de laver les latrines, les WC à l'extérieur.
Nicolas Maduro dit
venez
ça le
28
août.
Revenez à la maison, alors que les gens, ils ont tous répondu.
Arrêtez de laver les toilettes à l'étranger, venez vivre dans votre patrie.
Tout à fait. Donc du coup, ça explique bien en fait que la crise au Venezuela, elle est énorme, elle est sans précédent. Et en même temps, ces gens-là, ils cherchent juste une vie meilleure. Ils vont trouver une vie meilleure où ? En Colombie, en premier lieu. Après, ils vont vers les États-Unis quand même. Ça reste quand même le American Dreams. Et aussi, depuis un certain temps, ils vont encore plus vers le sud, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Et les Chiliens, j'étais assez étonnée en fait de voir. J'ai connaissé mon pays comme étant un pays très classiste. Et là, j'ai découvert un pays aussi raciste. Et ça m'a sidérée. J'étais furieuse. Parce que le test pour moi, un peu, c'est les taxistes en fait. Hein, les gens un peu dans la rue, etc. Les stratégies, c'est de se mettre un peu de leur côté pour voir jusqu'à quel point, jusqu'où ils vont arriver avec leurs propos. Et c'était des choses comme on dit, ah oui, on est un peu envahis par les Vénézuéliens. Ah oui, j'ai jamais vu autant de Noirs dans ces pays.
Discussion dans la voiture d'un taxi.
Ouais, discussion, c'est un peu potage, je veux dire. Mais quand même, ça donne un tempo, une sorte de température, un peu comme les choses c'est dans le
Pourtant,
Chili.
Pourtant, il y a eu pas mal d'Haïtiens accueillis au Chili.
Il y a eu beaucoup d'Haïtiens en 2010.
Qui ont largement profité à l'économie chilienne avec une main-d'œuvre très mal payée.
Et c'est ça qui est étonnant de cette histoire. savoir, c'est que par exemple, Piñera, qui est l'actuel président, il a fait en avril tout un pataquès avec la nouvelle loi de l'immigration, dans laquelle il donne une visa aux gens, de la visa de responsabilité démocratique. Ok, c'est bon.
Pour les exilés vénézuéliens.
Pour les Vénézuéliens. Mmh. Et c'est une visa qui dure un an, ok. Et les gens, ils peuvent travailler avec cette visa. Le problème, c'est que la main-d'œuvre, comme vous disiez, c'est tellement peu cher, hein, qui sont exploités, ces gens-là. C'est ce qui ne raconte pas justement ni les journaux, ni quoi que ce soit. Les gens, ils sont exploités, mais à mort, je veux dire. On voit les gens qui vivent dans des misères pas possibles, des gens qui sont hautement qualifiés, par exemple, que maintenant, ils servent en fait dans les supermarchés.
Ils sont accusés de voler le travail et les emplois des autres ou pas?
Pardon?
C'est ça, dans le fond, ils sont accusés de voler les emplois des autres.
Oui, mais en même temps, les Chiliens non plus, ils ne voulaient pas faire non plus ce genre de travail. Aujourd'hui, vous allez dans les bars, dans des quartiers qui sont assez c'est prisé par les touristes, etc. On vous dit, on va demander du travail à un jeune chilien. Il dit, non, on ne vous prend plus les jeunes chiliennes, les chiliens, par contre, parce que vous demandez trop des droits. Et maintenant, on n'emploie que les étrangers, notamment les Haïtiens, les Colombiens, qui on a aussi quelques-uns, les Péruviens et surtout les Vénézuéliens, parce que comme ils savent qu'ils sont en détresse, voilà, et là, ils exploitent la détresse humaine. Et je trouve ça ignoble, c'est un pays qui a été quand même victime des nombreuses exactions des droits de l'homme, exerce exactement la même chose à l'inverse. Et là, qu'est-ce qu'il faut les autorités?
Courte mémoire.
Qu'est-ce qu'il faut les autorités? Ils font des lois bidons comme ça pour un peu tenir tout le monde tranquille, un peu comme ça. Et tout. Ah, et d'ailleurs, même les 3 septembre.
Le Chili est rhabillé pour l'hiver.
Ah, si, non, mais les 3 septembre, il y a les 13 pays de la région qui sont réunis justement en Équateur pour faire face à cette crise. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais pour l'instant, les solutions, qu'est-ce qu'elles sont? Ils parlent des quotas, ils parlent des troupes à la frontière au Brésil, et ils parlent qu'il y ait des choses pour empêcher que ces gens puissent aller vivre tranquillement, à la place de donner justement des aides, de faire des cordons humanitaires pour que les gens puissent arriver. Il faut dire qu'il y a 4000 km qui séparent le Venezuela du Chili et les gens ils arrivent en bus.
Moi, je dis Paola, présidente.
Voilà. Non, mais c'est
non, mais je crois que quand même, c'est vrai que c'est sûrement un problème.
Un probable écho au débat européen, finalement.
Oui, oui. Non, mais d'abord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même avant tout un problème au Venezuela. Parce que les conditions, enfin la vie, les conditions de vie au Venezuela sont
je
telles.
Je suis mille fois d'accord avec toi, Bibeke. Mais quand tu as un président qui fait l'oreille sourde, qui dit non, et si rien ne se passe, non, mais qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous voulez pas le bien-être de mon pays? C'est qu'il y a des lois, vous desprestigiar, j'ai oublié les mots, excusez-moi.
Déprécier.
Voilà, déprécier ce qui arrive dans le pays. Donc là, il y a une négation totale de la crise qui vit ces pays et de la part de qui? Des hautes mandataires. Donc c'est là la vraie question, elle est là. Comment faire pression en Amérique latine pour que ce personnage-là, soit il dégage, soit il prenne des décisions?
On a essayé de le dégager. Est-ce qu'on en sait maintenant?
Rien n'est passé pour l'instant. Rien. Lui, il menace tout le monde qu'il va quitter l'OEA, qu'il va quitter celui-ci, qu'il va quitter tel traité. Mais pour l'instant, rien ne se fait. Et les gens, ils sont là, bras croisés, à rien faire.
Vous nous avez proposé un menu de sujets. Est-ce qu'on peut revenir à des sujets tout à fait essentiels?
Oui.
Samira Ibrahim, vous souhaitez nous parler des, tout a le droit d'être débattu dans cette émission. Vous souhaitez nous parler des rencontres amoureuses via le fameux réseau social Tinder. Des rencontres qui peuvent très très mal tourner, puisque le 19 août dernier, Natasha Ponte, mannequin, starlette américaine, a piégé une centaine de prétendants sur Tinder en organisant un rendez-vous collectif sur la place Union Square à New York. Elle n'était pas au rendez-vous au départ.
Au départ, elle n'était pas au rendez-vous. Alors,
tous les gars arrivent en se disant ils ont rendez-vous avec Natasha Ponte. Donc ils se retrouvent tous sur cette place à New York. Elle leur envoie un message d'excuse pour prévenir du retard. Elle a organisé tout
pas
petit
tous,
show.
Ils n'ont pas tous reçu ce message d'excuse, mais certains d'entre eux, oui. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous êtes inscrit sur ce genre de plateforme Tinder.
Vous souhaitez être indiscrète?
Non, mais au passage, on ne sait jamais. Je suis quand même journaliste. Je ne sais pas, vous êtes inscrite? Non. En tout cas, c'est les jeunes, les moins jeunes. C'est un truc très à la mode. Donc, vous pouvez rencontrer des gens de cette manière. Et donc, elle est rentrée en contact avec plusieurs jeunes hommes. Alors, ce n'est pas compliqué. Elle est belle comme un cœur. Elle est mannequin. Évidemment, elle a eu énormément, donc elle a matché avec plein d'autres personnes.
Ils arrivent sur place, elle a organisé un show, il y a un DJ.
Alors, elle les a prévenus. Alors, elle a discuté avec certains d'entre eux, et puis d'un coup, plus d'échanges, plus de messages, et puis elle réapparaît, et elle leur envoie un petit message, petit rendez-vous, tiens, j'ai un copain DJ qui va se produire, et si on se rencontrait?
Voilà.
Hi everyone. As you may or may not know, my name is Natasha and I have everyone here today to be on a date with me.
Alors en fait, elle apparaît ensuite sur cette place à New York. Elle révèle la supercherie. Elle organise, elle dit qu'elle va organiser un concours pour sélectionner celui qui obtiendra le fameux tête-à-tête avec elle. Et elle énumère des critères disqualifiants.
Et là, ils sont flippés. Hein,
donc
en fait.
Les critères disqualifiants, petits, ceux qui s'appellent Jimmy, ceux qui ont été quittés lors de la précédente idylle, les portoricains qui supportent Trump, ceux qui ont une longue barbe. Et puis
ceux qui ont été largués par leur copine.
C'est ça. Ah. Et 30 pompes et un entretien de motivation d'une minute. Et à la fin, un homme sera choisi. Quel est le but de l'opération à part faire parler d'elle-même?
Alors évidemment, cette opération a été filmée. Il y a un vidéaste qui a tout évidemment filmé. Il a des images.
Tinder, hein, ouais, Tinder Trump.
Il voulait dénoncer justement les pièges de ces lieux de rencontre.
C'est ça, c'est qu'elle trouve ça quand même très froid, très superficiel. Et en fait, finalement, alors elle s'est fait insulter évidemment, elle a dû changer son compte Instagram, était ouvert au public, il est devenu maintenant privé.
Bon, entre nous, elle s'est fait insulter aussi.
Elle avait prévu, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont arrivés avec une rose, d'autres avec des lettres, ils étaient très mignons. Et puis quand elle est arrivée, elle a dit, bon, tous ceux qui font moins d'1m78... qui
dégagé.
S'appelle Jimmy, parce que je déteste ce prénom, vous sortez. Là, ils ont commencé à se sentir humiliés. En fait, en arrivant, ils
donc
sont commencé
anti,
à se dire...
anti-Tinder, ouais. Clairement.
Mais en fait, anti peut-être réseau ou plateforme de, oui. cette
C'est pour dénoncer justement ce type de rencontres.
Parce que ce qu'elle dit, c'est que finalement, tout ça est très superficiel. On se permet de larguer les gens, hein, de le faire comme ça sur Internet, personne ne nous dit rien, ça dérange personne. En revanche, quand on le fait dans la vraie vie, ah bah tiens, ça choque, ça fait mal. Mais c'est ce qu'on fait à longueur de journée, caché derrière nos écrans. Alors les gens l'ont peut-être mal pris, mais moi j'ai trouvé ça finalement malin,
culotté,
sympa, culotté. C'est pas parce que je suis féministe, hein, c'est juste parce que je trouve que si un mec avait fait ça en disant, bon voilà, c'est de l'art, et puis j'ai fait une petite vidéo pour expérimenter... Ouf, on aurait dit, ah super, il aurait eu un bon coup de
donc
de
Natasha
pub.
Ponte, vous lui mettez
ah bravo, hein, j'ai dit, vas-y.
Bravo aussi.
Pas vraiment, non. Parce que je trouve que, bon, en dehors de ses intentions qui sont peut-être effectivement de dénoncer ce système et tout, que je n'aime pas beaucoup plus qu'elle, mais elle a quand même humilié une centaine de personnes.
Oh qui... non, Vivé, que tu vas
mais
trop
si,
loin. Humiliation.
Mais si,
ils
n'étaient pas
d'accord.
Ils
n'ont
pas obligés de jouer.
Ça,
en fait,
désolé.
Quand elle est arrivée, qu'elle est apparue.
Parler d'une humiliation.
Non, mais quand elle est apparue, elle a révélé le fin mot de l'histoire et ils étaient libres de partir. Ceux qui ont fait les pompes, qui ont joué, qui
là,
ont couru, qui ont fait la course, qui se sont battus, ils ont voulu jouer le jeu, mais ils n'étaient pas obligés de le faire.
Tu peux rester très anonyme.
Alors après, elle leur a fait peut-être perdre leur temps.
Vivé, en tout cas, vous posez une question intéressante. Vous allez avoir quelques minutes pour y réfléchir. Est-ce qu'on vit dans une société de la tyrannie du bonheur? Allez, les voisins et les voisines, vous avez 4 heures pour
sujet.
La dissertation de philo. Donc vous avez à peine 2 minutes, le temps d'un week-end. Charlie Winston.
Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up, oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer.
Vibeke Knufrachlin, journaliste norvégienne, vous avez lu cet été, c'est vrai qu'on a du temps pour lire, un livre qui s'appelle Happycracy du psychologue espagnol Edgar Cabanas et de la sociologue franco-israélienne Eva Illouz, qui est sorti à la fin du mois d'août. et qui finalement pose la question, est-ce qu'on vit dans une société de la tyrannie du bonheur, apicratie, le pouvoir par l'injonction au bonheur?
Oui, sauf que c'est pas parti exactement de cet article, ça je l'ai vu après, c'est parti d'un livre norvégien écrit par un écrivain qui s'appelle Martin Nygaard et qui s'appelle « Le bonheur d'être pauvre ». Parce que pour lui, c'était ça le bonheur. Et il a fait contre la stigmatisation des pauvres, qui selon les critères internationaux touchent quand même 10% de la population norvégienne, a priori très riche, mais que pour lui c'était un choix de ne pas avoir de travail fixe et des revenus faibles. Il adore de ne pas dépenser.
La liberté des pauvres, hein,
voilà,
c'est ça.
Voilà, il a 5 ouais. enfants qui ont été habillés et à qui on a offert des skis, etc., d'occasion. Et quand même, on a commencé à se moquer de lui quand on s'est aperçu qu'il est propriétaire d'une très belle maison dans le quartier le plus huppé d'Oslo et d'un chalet. C'est-à-dire qu'il a au moins, enfin pas loin d'un million d'euros. C'est une pauvreté toute relative.
En fait, c'est un bobo nouvelle génération.
Et c'est donc après avoir étudié ce cas, un peu bizarre.
Provoquant, en tout cas.
Provoquant, oui. Que j'ai vu que, visiblement, le thème du bonheur à tous les instants, que l'on souhaite pour tout le monde, enfin, qu'on vivrait dans une espèce de bulle.
Bonheur au travail, voilà. Bonheur en famille,
parce que
bonheur
les gens,
sexuel.
Ils sont malades de bonheur. C'est ça la question. Voilà. Là, je n'ai jamais vu autant des pubs du bonheur dans un pays, le Chili, encore une fois, où il est malade. Parce que ça va mal, les gens, ils
vous
pensent qu'à consommer.
D'être heureux.
Exactement, ouais. Donc là il y a le besoin justement, cet idéal d'être heureux, d'être bien avec soi, avec les autres.
Et ça me fait un peu, enfin ça m'amuse un peu parce que je trouve que ça vient assez rapidement après que tout le monde devait avoir du hygge dans leur maison. Ça c'est un terme danois pour dire oh c'est cosy, c'est sympathique.
On est bien dans son petit canapé, voilà. Au coin du feu,
voilà.
Etc.
Et tout d'un coup maintenant ce n'est plus... Hygge, c'est bonheur.
C'est ça, ça participe à toute cette industrie du bonheur, voilà. Le coaching, les livres de développement personnel,
exactement.
Les conseils de vie quotidienne. C'est vrai, mais en même temps, les vraies questions sur le bonheur au travail sont légitimes, par exemple.
Oui, mais ce qu'on voit surtout, c'est le malheur au travail. C'est ceux qui ont des burn-out et qui...
Vous êtes sûr que vous rentrez de vacances, Rebecca?
Non, mais c'est parce que justement, on voit tout ça. C'est parce que certains pays vont mal, parce que l'économie va mal, qu'on a besoin d'injecter du bonheur. Et c'est vrai que le bonheur, aujourd'hui, c'est devenu un produit hyper à la mode et c'est devenu un business comme un autre.
Voilà.
En revanche, quand vous parlez de la simplicité de la vie, acheter aux enfants, alors que nous avons les moyens, des vêtements d'occasion, c'est revenir à se nourrir finalement de choses simples, d'être heureux parce qu'on a et pas...
En tout cas, chercher le bonheur ailleurs.
Voilà. Parce que finalement, consommer, c'est remplir un vide qui existe en nous et ce n'est pas être heureux. Quoi. Ouais.
Mais allez l'expliquer à ceux qui n'ont pas de quoi consommer.
Moi, j'aime bien ce sujet.
C'est ce que j'allais dire. C'était écrivain quand même, il a été assez descendu par les réseaux sociaux.
L'écrivain norvégien en question.
Oui, par plein de gens qui lui disaient, mais de quoi parle-t-il? Lui, il a 9 millions, 9 millions de couronnes, et il parle de bonheur, d'être pauvre, il n'est pas pauvre.
Ça tombe bien, on enchaîne avec un bonheur alors très perso cette
j'aurais
fois-ci.
J'aimerais bien être pauvre avec un million.
Bronzé, seins nus, 26 août dernier, c'était encore les vacances, le soleil et la journée mondiale du topless.
Parlons balcon, parlons nichon. Je suis quand même incroyablement étonnée par les obsessions, les aversions qui perdurent autour de deux poches de gras et de glandes. Oui, c'est une manière de voir les choses. Dans l'Égypte antique, on vivait les boobs salaires sans souci. C'est quoi qui a merdé? Je veux dire, qui a commencé à dire que le corps c'était caca, que la sexualité c'était pas bien? La religion, les politiques? Mais faut qu'on se réveille, putain, je veux dire, on essaie de nous formater de la chatte aux tétons. Faut leur faire la nique à tous ces puritains moralisateurs qui nous disent qu'on est pervers avec notre peau qu'on aère, alors qu'eux, ils ont juste un problème avec leur zizi.
Vous venez d'entendre une chroniqueuse sur France Inter dans l'émission Par Jupiter, qui est une émission très populaire sur la chaîne publique française. C'était l'été, il faisait beau, elle avait envie de se marrer, la chroniqueuse Constance. Bref, d'être heureuse pour parler de la journée mondiale du topless, la journée des seins nus. Et tout en lisant son texte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine sa chronique. Vous avez adoré cette chronique, Paola Martinez.
Oui, je l'aime beaucoup déjà avant cette émission.
Elle termine sa chronique en enlevant son t-shirt, son soutien-gorge. Elle se retrouve seins nus dans le studio de France Inter. C'était pas franchement prévu. La vidéo, ça par contre, c'était prévu. Visionnée plus d'un million de fois, évidemment, sur YouTube.
Même par ceux qui sont contre. Hein.
Pourquoi revenir sur
pourquoi réunir
une anecdote
sur ça? Encore une fois, je trouve ça très culotté de sa part et mettre comme ça, se mettre toute nue devant tout le monde. Bon, évidemment, elle était en plein délire de sa chronique, assez drôle et assez pertinente aussi. Qui a décidé que la nudité c'était caca? Ça, c'est ma question aussi. Pourquoi aujourd'hui,
on n'aura
plus jamais en France? Ça fait 20 ans que j'habite dans ces pays. Quand je suis arrivée en France en 98, j'étais ravie de voir dans les plage française, les femmes, tout âge, tous les âges, les seins nus, sans complexe, aucun problème, aucun regard détourné.
C'était les dernières années, 98, avant
aujourd'hui,
que tout le monde soit obligé de se
raviser. Tout le monde se couvre. Tout le monde se couvre, c'est vrai, le soleil,
tout
ça,
chier,
les foutaises.
Ça se faisait pas du tout.
Non, vous parlez, vous mettez ça en l'air et les gens, ils viennent vous flinguer. En fait, c'est du n'importe quoi. Ça me rappelle aussi, l'année dernière, en Argentine, il y a eu des femmes qui sont posées, en fait, justement, dans une plage, les seins nus. Tout le monde est venu, même la gendarmerie, les enlever. Ça a créé un hashtag, et le tétasse, ça veut dire les gros nichons. Des milliers de femmes sont sorties dans la rue pour demander justement la liberté d'être seins nus quand on veut, au lieu où on veut, au moment où on veut. Et ce qui m'a étonnée dans cette chronique, hein, déjà, je salue encore Constance Pittard pour sa chronique, sa culotte
qui a été quand même inondée d'insultes.
Inondée d'insultes, mais des insultes violentes, innommables. Là, je ne vais pas répéter ce qu'il a été, qu'on lui a dit, mais des choses horribles, horribles. Il a même donné des versets du Coran. À ces points-là, ça a devenu du n'importe quoi. Et elle disait notamment qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Bien entendu, ça a un peu choqué les gens qui étaient là autour de la table, ça a fait rigoler pas mal.
Son employeur est d'accord, hein, quand même.
D'accord,
faut bien préciser.
Si
oui, c'est une radio publique quand même.
Que j'ai ça, je l'ai pas encore, il n'a pas été viré. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est ce puritanisme autour des seins. On a déjà parlé dans cette émission, je n'ai déjà amené une fois le sujet sur l'allaitement aussi, c'est un vrai sujet.
Là, c'est un vrai
sujet. À chaque fois qu'il y a les seins qui sortent, tout le monde devient fou. Pourquoi pas, ils n'ont pas fait la même chose lors
Non, mais là, ce n'est pas pareil. Là, elle n'est pas en train d'allaiter. Elle a fait une chronique. Je trouve ça intéressant. Elle a eu envie de le faire. Elle l'a fait. C'est une radio publique. Alors, je ne comprends pas. Moi, tout le monde a envie de se déshabiller. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. En revanche, ce qui m'étonne, c'est quand même que les gens réagissent de cette manière en France.
Viscérale.
Alors que, effectivement, il y a énormément de plages où on pouvait retrouver des femmes topless. Là,
on
il y a
pouvait
vraiment...
imparfait.
Là,
c'est
ça gêne.
Cas,
la nudité gêne et nous sommes en
tout
France.
Tout autant
moi,
que le burkini, rappelons-le
oui,
tout de même.
Oui,
parce
oui,
qu'il y a deux
fait.
Ans, c'était
tout
la polémique, c'était
tout
le burkini.
Oui, il faut rappeler quand même que la journée du 26 août, hein, c'est une journée aussi qui consacre à la liberté des droits des femmes. Ça a été créé aux États-Unis en 2006. Ça coïncide avec les jours aussi les femmes, ils ont acquéri des droits légitimes aux États-Unis.
Droit
et donc,
de vote des
bien entendu, et là, bien entendu, comme les seins, ça devient comme l'objet du désir et du non-désir. Donc là, évidemment, ça a été une journée qui a calé pile ces 26 août.
Alors, il paraît qu'il y a des collectifs, justement, je voulais vous laisser la parole, Vibeke, parce qu'il paraît qu'il y a des collectifs de piscines publiques seins nus en Suède, au Canada, au Danemark.
C'est
en
bien
Norvège,
possible.
On dit quoi?
Moi, ce que j'allais dire, c'est que, encore une fois, je vais être un peu à contre-courant, parce que moi, j'en ai marre de toutes ces formes de... Là, je parle de femmes et d'hommes qui ne trouvent d'autres moyens de protester que de se déshabiller.
Oui.
Je trouve ça nul.
Moi aussi, j'en ai
excusez-moi,
marre
mais vraiment, il y a d'autres moyens de dire des choses que d'enlever les vêtements.
En
et
vidéo,
c'est
devenu, ça passe
c'est
bien.
Devenu tellement
pourquoi pas
courant.
J'ai dit non, pourquoi
non,
pas
non,
les
non,
femmes.
Non, puisque
ils
c'est comme ça,
travail.
Je me déshabille. Ça suffit maintenant. Non, mais elle a raison. C'est vrai que c'est facile. C'est devenu un truc un peu facile.
Non, pas un peu facile la preuve, c'est pas facile du tout. Elle
oui,
s'est insultée par tout le monde.
C'est
facile d'enlever les soutiens-gorge, mais après, attends, tout ce qu'il subit après, c'est.
Vous restez
c'est
avec nous,
vrai,
les
chatcheuses.
reportage, je vous l'avais annoncé en fin d'émission.
Je suis pour la liberté.
Dans quelques instants, on revient à un sujet grave. Les enfants des rues à Kinshasa.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Ils ont entre 8 et 15 ans et quand ils arrivent au centre Likemo à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le quartier populaire de Bandalangungwa, dirigé par Roger Katemwe Bouiki, ils ont le corps marqué par les douleurs d'une courte vie passée dans les rues de cette immense capitale de la débrouille. Ils sont chassés de leur famille ou ils sont partis à cause du chaos dans leur foyer. Certains fuient aussi la prison ou ont même été enlevés pour être exploités. David Baché s'est rendu dans ce centre qui a ouvert en novembre dernier et qui offre une écoute, un repos, de l'hygiène, des activités sportives ou culturelles. Bref, une goutte d'eau dans un océan d'enfance à la dérive.
Je m'appelle Kanku.
Ouzamboulani.
10 ans.
Où est-ce que tu étais avant d'arriver ici?
Na Chikapa.
C'est l'une des provinces de la RDC. C'est très très loin vraiment avec Kinshasa. Et comment tu es arrivé ici à Kinshasa?
Baiba Kibiso.
Un certain groupe de gens, parce qu'ils jouaient dans la rue, et ils ont dit que venez avec nous, nous allons vous donner quelque chose à manger. Et quand les enfants sont venus, ils ont coffré les enfants dans leur voiture et ils ont amené les enfants ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils t'ont amené à Kinshasa?
Ils
ont obligé aux enfants d'aller voler. S'ils ne volent pas, quand vous revenez à la maison, ils vont commencer à vous tabasser fortement. Donc vous allez vraiment subir une torture là qui sera vraiment sévère. La bête est morte en machette. Hein? Ils ont frappé l'un de leurs frères la machette au niveau de la tête.
Tu t'es enfui?
Il avait fui, il connaissait les centres qui étaient ici et le monsieur l'a amené ici au centre.
C'est quelqu'un qui l'a emmené ici. Et où est-ce que tu dormais quand tu étais avec ce groupe d'enfants et qu'on t'obligeait à voler?
Ils étaient dans un quartier qui est tout près de l'aéroport national d'Ndjili. Donc c'est très loin vraiment d'ici. Et c'est un milieu qui est vraiment isolé là. Ce n'était pas un endroit agréable. Mais au fur et à mesure, il continuait toujours à les tabasser. C'est pour cela qu'il avait fui.
Depuis que tu es arrivé ici, dans le centre, est-ce que ça va mieux?
C'est bien, mais son souci est qu'il veut rentrer à sa famille.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai 10 ans.
Ça fait combien de temps que tu es ici?
Ça fait même une année ici. En fond de la rue, ce n'est pas bien vraiment. Il faut que je retourne dans mon famille. Ma maman s'appelle Judith, mon papa s'appelle Augustin. J'habite à Ipeng, en Galiema.
Ça, c'est une commune de Kinshasa?
C'est une commune de Kinshasa.
Et pourquoi est-ce que toi, tu es ici?
C'est la difficulté.
Ils travaillent, ton papa et ta maman?
Non, les papas et maman sont séparés.
Et avant de venir ici, tu allais à l'école, tu faisais quoi?
Oui, j'avais enseigné première, deuxième, maintenant j'ai troisième.
Troisième année d'école?
Troisième année. Maintenant, il n'y a pas de l'argent de Minerval. La difficulté est que je m'envoie ici.
Et avant d'être ici, du coup, entre l'école et ici, ça t'arrivait de rester dans la rue?
Dans la rue, c'est vraiment mauvais. Oui, c'est mauvais vraiment.
Et tu es content ici?
Oui, je suis content.
Tu as envie de faire
oui,
quoi?
J'ai envie de retourner à la maison, de m'enseigner. J'enseigne à moi.
Aller à l'école pour recevoir de l'enseignement?
Oui, l'enseignement, les mathématiques, oui. À part enseigne, je dessine. Oui, peinture. On dit peinture.
Alors tu vas devenir un grand peintre?
Oui.
Bonjour, mon nom est Roger Katemwe. Je suis le directeur du centre d'accueil d'urgence Likemo Katser.
Est-ce que votre présence est bien vue, bien perçue dans le quartier?
Pas tout à fait, parce qu'on a une image auréolée de l'enfant en situation des rues. Pour le commun des mortels, c'est eux qui constituent le danger en volant des rétroviseurs, tout ce qu'ils trouvent dans la rue, mais en créant aussi une certaine insécurité Mais moi, je peux vous rassurer d'une chose, c'est qu'ils sont en danger dans la rue, mais pas constitués un danger.
Du coup, ça crée quelques difficultés avec le voisinage ?
Parfaitement. Les voisins ne jugent pas ça de bon oeil. Et très souvent, nous sommes interpellés pour dire, voilà, vos enfants ont commis telle réalité, les enfants nous ont produit tel geste qui n'a pas plu. Et aussi, quelquefois, l'intervention aussi de la police qui pense qu'il faut utiliser des méthodes fortes de répression par rapport à ces enfants. En les arrêtant, les amenant au poste de police pour avoir commis un fait bénin dans la rue, vol simple, mais aussi pour avoir vagabondé. Cette opération consiste à éliminer, à réduire le nombre d'enfants en situation des rues.
Et ça, c'est des choses que vous constatez ici ?
Quand ils arrivent ici le matin, la plupart d'entre eux nous parlent et nous voyons aussi des faits à travers les traces physiques qu'ils ont sur leur corps.
Ça peut aller jusqu'à la mort ?
Oui. Ils ne se laissent pas faire, ils se défendent. Et parfois, la police utilise les méthodes fortes. Bon, il y en a qui reçoivent des balles.
Voilà, le centre Likemo à Kinshasa fait des recherches pour retrouver les familles des enfants quand ils sont en rupture totale avec les parents, dont certains d'ailleurs sont décédés, mais les enfants sont aussi dans un déni. Parfois, ils disent que leur père est simplement parti. C'est le cas d'Emmanuel que vous avez entendu, Samira Ibrahim.
Ah, des témoignages poignants. Et je me dis, heureusement qu'il y a des organisations comme celle-ci, des personnes qui prennent soin de ces enfants. Ça m'a fait penser aux enfants talibés à Dakar, au Sénégal. Et il n'y a pas de solution. C'est vrai que ce sont des pays qui se développent, qui sont en voie de développement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des solutions qui sont amenées par... Oui, voilà. C'est toujours les mêmes histoires. Alors que ce sont des pays qui se développent, on le voit. Vous le disiez vous-même tout à l'heure en antenne.
Ah oui, je le précise, sur la route effectivement entre Dakar et Saint-Louis, il y a des stations d'essence flambant neuves où on trouve absolument tout comme en Europe. Mais toujours les mêmes enfants talibés en haillons, qui évidemment ne sont pas scolarisés et qui crèvent de faim. Donc voilà, ça n'est pas une particularité en République démocratique du Congo, mais ça atteint quand même des sommets dans un pays où il y a énormément de personnes déplacées, de foyers qui sont complètement fracassés par la guerre notamment.
Mais il ne faut pas aller plus loin que dans certains quartiers de Paris, encore une fois, où il y a des enfants qui vivent dans la rue, des enfants migrants,
des enfants migrants qui sont arrivés sur le sol français et qui ont totalement disparu.
C'est encore un autre sujet.
Et qui fait froid dans le dos aussi.
Bah oui.
Paola ?
Ça me fait penser aussi, c'est une réalité qui se vit beaucoup au Chili, en Amérique latine, énormément. Les enfants sont assez laissés par contre. Et là, ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'il y a toujours ces questions qui, moi, ça m'énerve profondément. Cette manque des consciences, des prises de conscience des autorités. Les autorités, par exemple, du Chili, il y a le Service national des mineurs, par exemple, qui prend en charge justement ces enfants qui sont en détresse. Mais là, maintenant, on parle justement qu'on enlève des subventions. Il n'y a pas vraiment les moyens pour le faire. Alors que oui, il y a des moyens pour acheter des armes. Oui, il y a les moyens pour, vendre au bras le pays à des multinationales.
C'est rarement un sujet politique en période électorale, d'ailleurs.
Et c'est là, en fait, après, on dit oui, il faut changer les mentalités. Et c'est là la graine, en fait, les enfants. Qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont la convoitise des mafias aussi, autant des services sociaux, parce qu'aussi ils peuvent mal gérer en fait leur enfance, etc. Mais c'est quand même, ils sont dans un no man's land qu'il faut absolument trouver les solutions et gérer cette crise.
Et pour revenir...
Il nous reste quelques secondes, Vibeke.
Pour revenir à mon sujet tout à l'heure, le droit L'aide de l'enfant sociale à l'enfance n'existe pas.
En Norvège, vous en parliez tout à l'heure. Merci à vous les tchatcheuses, merci à toutes les trois, Vibeke Knoop-Rachlin, Samira Ibrahim, Paola Martinez. Vous revenez quand vous voulez. Merci à toute l'équipe aussi qui prépare l'émission. Sigrid Azéroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Vous pouvez réécouter nos émissions en podcast et sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Demain, à 7 milliards de voisins, on parlera énergie, assainissement, agriculture, des projets concrets qui fonctionnent en Afrique. Nos invités sont sénégalais, maliens, de passage à Paris.